Bien, eh ben bonjour à tout le monde et on est parti pour une nouvelle édition des tutos live autour de Windows Azure. Donc avant de parler du sujet, on va voir qui va nous parler de tout ça. Donc vous connaissez peut-être Benjamin.
Bonjour.
Vous connaissez peut-être pas Stéphanie qui vient de nous rejoindre.
Bonjour.
Voilà, qui remplace Kevin et qui va faire plein de tutos avec nous, plein de. Le nombre de choses auxquelles tu vas participer, ça va être un truc assez impressionnant. Et qui aujourd'hui va prendre les questions. Donc si vous avez des questions, vous les posez et c'est elle qui nous les reposera. Et donc vous aurez le plaisir d'avoir des réponses pertinentes posées par des gens intéressants. Et enfin, on a Maxence,
Bonjour. Bonjour,
qui
Maxence.
bosse chez Blockbase. Tout à l'heure, on verra beaucoup plus en détail qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'amène ici, etc., etc. Voilà pour les gens. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est là? On veut vous reparler de Mobile Services. Alors, on avait déjà vaguement abordé Mobile Services, mais c'était à l'époque sur les fonctionnalités de stockage principalement. Et puis ça restait relativement théorique, c'était au milieu de différentes choses. Aujourd'hui, on a voulu prendre plus de temps pour parler d'un élément que plein de gens utilisent, qui est la partie authentification. Donc comment s'appuyer sur les bases de compte de Monsieur Tout-le-Monde, en l'occurrence Facebook, Twitter, Google, alors je sais plus comment l'appeler, si c'est Live, Microsoft, Outlook, etc. Enfin, la nôtre, quoi.
Ouais.
Donc ça, d'une part. D'autre part, parler un petit peu de la mécanique de notification. Microsoft iOS, ça vous laisse deviner qu'on ne fait pas que du Windows Phone ou du Windows 8 avec ça. Et d'ailleurs, on verra avec Maxence plus en détail ce qu'on peut faire avec des iPhones ou des iPads dans une quinzaine de minutes si on arrive à tenir notre timing. Et bien évidemment, on peut stocker un petit peu de données, puis il y a deux ou trois autres goodies, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vais passer la parole, la main, l'écran à Benjamin, qui va vous montrer en détail comment on fait tout ça.
Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un Mobile Services. Alors j'en ai déjà un, mais j'en crée un autre.
Donc il vous a dit, hein, c'est le portail Azure, tout ça.
Voilà, on est dans le portail Azure, tout ça, je démarre direct, hein, et je vais l'appeler TutoMob, par exemple. J'utilise, donc ça c'est le nom, il est disponible. Ensuite, j'utilise une base SQL Azure, enfin Azure SQL Database qui existe déjà, mais je pourrais aussi créer une nouvelle base. Je choisis l'abonnement dans lequel je veux créer ce Mobile Services et je choisis le data center, à savoir l'Europe du Nord. Donc, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va créer un. Alors, je ne vais pas prendre Elephant DB, je vais prendre plutôt Mobile Services, le nom de la base. Je choisis le mot de passe. Alors, j'ai changé. La dernière fois, tu trouvais qu'il n'était pas beau. Alors, du coup, j'en ai pris un autre pour les mots de passe.
Oui, je préfère.
Un outil de mot de passe, mais il n'est pas beaucoup plus joli. Mais bon, il est différent en tout cas. Et
Parce qu'il
donc.
est gestionnaire de mot de passe où il a tous ses mots de passe,
Voilà,
etc.
c'est ça. Donc, la base de données avec le serveur. Voilà. Donc là, ce qu'il crée, c'est un back-end dans lequel je vais avoir des web services, une base de données, etc. Mais on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir simplement côté Azure un back-end, un serveur avec lequel on va pouvoir dialoguer depuis les différents périphériques mobiles, depuis les di différents devices, les différents appareils ou dispositifs en français, je crois, mobiles. Et donc là, en l'occurrence, on va faire une application mobile sur une tablette Windows 8. Donc en l'occurrence, là, c'est un Lenovo.
C'est un gros Lenovo de 3,2 kg,
voilà,
mais.
C'est ça, un W500 mobile. Voilà. Donc, comment est-ce que je démarre ici? Une des façons de démarrer simplement, et je vous encourage à faire ça la première fois que vous prenez en main un Mobile Services, parce que c'est un bon moyen de prendre en main les choses,
C'est de le passer en français.
C'est de le passer en français.
Voilà, la
Alors,
première chose qu'on fait.
Prenons-le en français.
Voilà.
En français. Voilà, très bien.
Et ça devient service mobile.
Exactement.
Voilà, et donc ça va devenir service mobile.
Peut-être.
Donc,
J'aime bien essayer de lui péter ses démons.
Donc, une fois que le portail se rafraîchit, enfin qu'il essaye de de se rafraîchir, je vais pouvoir créer une application Windows Store, c'est-à-dire, en fait, ce qu'il me propose, c'est de télécharger une application Windows Store, exemple, qui va gérer des to-do items, donc des tâches. Donc, ce qu'on peut. Alors, déjà, il y a les outils à télécharger. Visual Studio, donc j'en ai déjà un sur mon poste. Le SDK de Mobile Services, je l'ai téléchargé aussi. C'est un MSI, en fait, qu'on télécharge et qu'on exécute. Et puis, ensuite, deuxième étape, on crée Un tableau, en fait, un tableau, c'est la traduction d'une table.
Oui, c'est ça, oui.
C'est donc,
on mais comme vous souffrirez vous-même de tout ça sur la version française, il faut qu'on vous le montre et qu'on vous commente, quoi.
C'est ça. Donc là, je crée un tableau. Voilà. Un tableau to-do item. Et puis, je peux télécharger donc cette application exemple qui va être connectée à mon tutomob.azure mobile services. Donc, comme c'est une application Windows Store, elle peut être en C# ou en JavaScript. Il n'y a pas le cas de C++, mais il y a en tout cas ces deux langages. Donc je sauvegarde cette application. Je vais la mettre à cet endroit-là. Voilà, donc là, je vais la débloquer, histoire de ne pas avoir des problèmes d'ouverture dans Visual Studio. Je l'extrais. Voilà, donc là, j'ai cette application que j'ai plus qu'à ouvrir dans Visual Studio. Et si j'exécute l'application directement, je vais avoir une gestion des tâches, to-do, etc. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir ajouter de l'authentification. Là, on va faire par exemple avec Google. Donc, comment est-ce que ça se passe? Alors, j'ai dans la page, dans la main page qui est là, c'est plutôt dans le .cs, j'ai ici le fait de naviguer sur ma page main page, ma page principale, et donc là je fais le refresh de to-do items, donc la table qui contient les données avec les tâches à faire. Et ce que je veux faire avant, c'est ici authentifier l'utilisateur. Donc,
alors, par défaut, tout le monde a accès aux données que tu publies? Comment ça marche?
Alors, je vais quand même l'exécuter une première fois.
Ouais.
Sur le truc par défaut. Donc là, elle s'exécute sur la machine. Donc là, j'ai un magnifique splash screen de démarrage. Ensuite, mon application TutoMob. Donc là, c'est pas une page web, hein, c'est vraiment mon application pleine page Windows 8. Donc là, si j'ai un truc à faire, par exemple, je fais save. Ça rajoute un enregistrement truc qui est dans mon tableau to do item. Donc, si je retourne ici, que je vais dans mon mobile service, que je vais dans données, je vois ma table to do item, et dedans j'ai mon enregistrement truc. Et elle est complete à false, puisque j'ai pas coché, donc c'est pas encore fait.
D'accord.
Donc voilà. Donc, à partir de là, ce que je veux faire là, c'est faire en sorte que seuls les utilisateurs authentifiés puissent accéder. Donc pour faire ça, je peux aller dans autorisation au niveau de ma table, qui est là, et dire, plutôt que d'autoriser toutes les applications qui ont juste la clé d'application à accéder à la table, via les web services, enfin peu importe, du coup je vais faire seuls les utilisateurs authentifiés ont le droit de faire ces opérations de CRUD, create, read, update, delete.
Alors juste,
ils sont là.
On l'a refait au ralenti. Par défaut, il y a une clé qui accompagne le service que tu viens de créer.
Oui.
Et si on a cette clé, par défaut, on a accès aux données, et uniquement si on a cette clé. C'est pour ça qu'on embarque la clé dans son appli.
Exactement. La clé, elle est ici.
D'accord.
On la retrouve aussi dans le portail. Et c'est cette clé-là, en fait, qui dit, si je me connecte à tutomob.azuremobile.net, avec cette clé-là, j'ai effectivement le droit d'accéder aux données.
Donc ça, c'est la sécurité par défaut.
Voilà.
Il faut avoir la clé pour accéder.
Donc et ça, si c'est ce mode-là.
D'accord. Et si on veut aller plus loin, on a une sécurité précodée qui permet de dire non, c'est uniquement les utilisateurs authentifiés.
Exact.
OK.
Donc si je sauvegarde ça et que je relance l'application avant d'avoir fait l'authentification, qu'est-ce que j'obtiens? Une erreur. Puisque là, il va essayer d'obtenir la liste depuis le mobile services, et il n'a pas le droit puisqu'il n'y a pas d'utilisateur authentifié au niveau de l'application.
D'accord.
Donc on dit OK, on s'y attendait. Et on va aller authentifier l'utilisateur. Donc pour faire ça, on a un utilisateur, ça s'appelle si je relis mes antisèches, c'est le mobile service client, mobile service user, pardon. Mobile Service User. Et je dis que je crée une variable Mobile Service User qui est nulle par défaut. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire si le user est nul, ça n'a rien de personnel. Si le user est nul, dans ce cas-là, le user, je vais plutôt dire que c'est l'utilisateur que je vais avoir authentifié. Donc, je vais dans App Mobile Services et là, je vais pouvoir faire un login async. Donc, enfin, dans les applications Windows Store et Windows Phone, entre autres, tout est asynchrone. Donc là, je vais dire, je fais cette authentification et cette authentification, je la fais auprès de quel fournisseur d'authentification, et c'est là que je vais pouvoir choisir. Donc là, je choisis un Mobile Service Authentication Provider, point. Donc là, en l'occurrence, je vais le faire avec Google, donc je mets Google. Tac, point virgule. Ça va, il manque juste un truc qui est le fait que ici, il faut aussi que ce soit asynchrone, voilà. Que ma fonction soit asynchrone pour que ça puisse fonctionner. Donc si je fais ça, ça va pas suffire. Parce que il faut quand même que je dise que mon application, côté client, j'ai fini en fait. Mais côté mobile service, il faut que je dise à quoi est rattachée du point de vue Google, en fait, cette authentification-là.
Il me faut une clé d'API, quoi.
Il me faut une clé d'API. Donc, je vais la saisir dans
le planificateur.
Je savais que j'allais.
Dans, ça doit être là-dedans. Je vais cliquer là-dedans pour voir ce que c'est. Non, c'est dans Identité. Donc, dans Identité, j'ai les paramètres Google. Donc, il me faut un ID client et une question secrète du client. Et donc ça, je vais obtenir ça en allant sur un de mes comptes Google. Donc je vais sur account.google.com/api/console. Alors ces liens-là, je vous montrerai comment est-ce qu'on les obtient, etc. D'ailleurs, c'est pas celui-là. Donc c'est code. Hop. Tac. Donc là, je m'authentifie avec mon compte Google. Hop. Voilà.
Et on ne fait aucune remarque sur les cartes qu'on utilise.
Donc là, je vais dans API Access.
Oui. C'est pas en français, ça ?
Non.
Non, c'est rien.
ça doit pouvoir se mettre en français, ça, mais bon. On va pas pousser jusque-là, quand même.
Puis les traductions pourraient être différentes entre Google et Microsoft.
Voilà. Donc là, je dis en fait que mon produit merveilleux que je suis en train de créer s'appelle TutoMob. Je vais pas lui mettre un logo, hein, on s'en fiche. Je dis que c'est une application web. Et en fait, je vais lui donner l'URL, en fait, ici, de mon service mobile. Enfin, Azure Mobile.
Alors, ça, c'est important pour les gens. On a l'impression de faire une appli mobile. Mais on est en train d'écrire le back-end de l'appli mobile. Donc oui, c'est bien une appli web qui va s'occuper de gérer l'authentification. Voilà, il n'y a pas d'arnaque derrière. C'est tout à fait logique de dire c'est une appli web.
Oui, donc en fait, cette URL, c'est celle qu'on a là. Quand on va dans tableau de bord, on a l'URL qui est là. Donc, je vais rentrer cette URL en deuxième. Et ici, pardon. C'est login/Google. Je vérifie juste si c'est slash. C'est sans slash à la fin. Et je crée mon client ID.
Donc là, on a donné l'URL sur lequel notre serveur mobile service va écouter les messages en provenance de la partie Google.
Oui. Ok. Donc ici, j'ai un client ID et un client secret. Donc, vous avez le droit de retenir le client ID, mais pas le client secret.
Donc, je crois que le copier-coller sur la vidéo est compliqué.
Ouais, donc, donc là, je vais dans Identité. L'ID client. Parce qu'il faut traduire entre les deux. Et puis, ici, le secret.
C'est pas du tout une question secrète.
Pardon ?
Il l'appelle question secrète.
Alors, est-ce que je veux enregistrer une modification ? Oui. Très bien. Et à partir de là, je vais pouvoir relancer mon application. Touk. Donc là, la fonction asynchrone d'authentification va héberger un navigateur qui va lui-même aller sur Google, et c'est là où c'est une application web du point de vue Google, puisqu'en fait, et là je vais pouvoir m'authentifier donc avec le compte. Alors là, il se trouve que c'est avec le même compte, mais ça pourrait être avec un autre. Hein. si je connaissais un autre mot de passe. Et voilà. Et là, je m'authentifie. Et alors, la première fois, effectivement, comme c'est une authentification haute, en fait, ce que fait Google, c'est dire là, vous allez vous connecter à une application qui s'appelle TutoMob. Est-ce que vous êtes d'accord pour fournir, pour donner
nom, prénom, carte de crédit, enfin d'accord.
Donc là, je dis bah oui, je suis d'accord. Hein. C'est moi qui l'ai faite l'appli. Non, non, mais bon. Donc chaque utilisateur, la première fois qu'il va se connecter à son application, va avoir ça. Et à partir de là, je vais pouvoir créer effectivement Titi. Et ici, du coup, j'ai effectivement mon utilisateur. Donc, j'accède bien à ma table, à mon tableau, tout en étant, parce que je suis authentifié cette fois-ci. C'est-à-dire que l'utilisateur de l'application est un utilisateur authentifié.
OK. Donc, on a, sans rien faire, toute la gestion des données. Ouais. Et pour le prix de trouver les bonnes clés d'API et les reporter dans la partie client. La partie authentification.
Exactement.
Ça marche pareil pour tous les fournisseurs d'identité, c'est la même mécanique à chaque fois.
Oui, c'est exactement pareil. En fait, il y a, enfin, juste, évidemment, c'est pas code.google.com à chaque fois, mais grosso modo, c'est la même mécanique. Hein. Qu'on soit sur Facebook, sur Twitter, c'est peut-être un peu différent chez nous, parce que bon, quand même. Où en gros, faut authentifier, faut avoir un compte de développeur d'application.
C'est vieux dev.life.com qui est utilisé derrière.
Ouais, il y a ça. Et d'ailleurs, je vous conseille, on verra peut-être les push notifications peut-être après. Je vous conseille de commencer par les push notifications pour que votre application et des ID et des secrets qui correspondent à ce qui est fourni par le Windows Store avant de faire la partie authentification.
Mais bon. J'ai rien compris, on verra après.
Ouais, peu importe. Juste une dernière chose que je veux montrer, qui est que là, côté mobile service, on a des scripts qui correspondent à l'insertion, etc. C'est pas ça ce que je voulais montrer. Voilà. Donc, si je vais dans données et dans donc to do item script. Donc là, quand j'insère, par exemple, quand j'insère un utilisateur, j'ai dans les paramètres l'item, donc le item.txt, etc. Mais j'ai aussi le user et la requête sur laquelle je fais l'exécution. Ce que je peux faire, c'est ici, par exemple, faire un request.respond en disant, bon, ça y est, je réponds à l'utilisateur en lui disant, ça y est, je réponds à l'application mobile en disant, ça y est, c'est fait. Une fois que j'ai exécuté et de façon asynchrone, je peux loguer dans la console le fait que c'est tel utilisateur qui a inséré tel item. Donc je peux faire par exemple item.text plus à ajouter, on va le mettre entre cotes, à ajouter c'est le contraire.
Oui, c'est plutôt l'utilisateur qui a ajouté.
Quoi, ouais, tant qu'à faire. User.userID avec un ID à ajouter. Hop. Item.text. Voilà. Point virgule, parce que ça décore. C'est pas la sauvegarde ici. La sauvegarde ici. Voilà. Et je retourne dans mon application. Qui doit être par là. Hop, TutoMob. Et je rajoute. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ?
Mob.
Toto. Mob. Toto. Et je rajoute Toto. Voilà. Et si je retourne donc ici, je peux aller dans les logs, qui a été traduit en français par log. Et donc là, on voit que Google a ajouté Toto. Donc ça, c'est l'identifiant de l'utilisateur. Le user ID, c'est l'identifiant de l'utilisateur. Voilà.
Je vais juste revenir dans le script un instant.
Oui.
Le back-end, en fait, mobile services, quand vous créez un service avec ça, vous créez une application Node.js. Donc tout le code qui s'exécute côté serveur est du code écrit en JavaScript. Alors par nous, donc a priori ça ne vous gêne pas ou ça vous fait ni chaud ni froid, il y a quand même un cas où c'est un peu important, c'est lorsque vous écrivez des scripts comme celui qu'on a là. Vous les écrivez en JavaScript. C'est pas du JavaScript client, vous n'avez pas accès au DOM, etc., etc. Si vous en voulez plus là-dessus, regardez comment fonctionne Node, et c'est là que vous aurez les infos sur comment rajouter des fonctionnalités au sein des scripts. Et on peut faire plein de trucs avec ça, mais on en parlera plus tard.
Ouais. Par exemple, si vous voulez savoir si le texte c'est Toto, il faut faire ifitem.text égal, 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 Toto. Puisqu'on est en JavaScript.
Voilà pour cette petite partie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous raconter sur Mobile Services? Ça, c'est ce qu'on a en gros depuis le début sur Mobile Services.
Enfin, l'authentification, elle n'était pas comme ça au début.
Elle a, oui, même, elle était un peu plus restrictive. Enfin, on l'a eu dès le début, mais elle était que sur les comptes live Microsoft. Et on a eu, il n'y a pas très longtemps, l'ajout des trois autres fournisseurs d'identité. On a autre chose qui est apparue très récemment et qui est un vrai plaisir. Donc, en gros, on a eu plein d'allers-retours et plein d'échanges de la part des gens qui utilisaient ça pour la première fois. Et on s'est fait largement féliciter pour ce que ça faisait et bien engueuler pour ce que ça faisait pas. Et notamment, il y a plein de gens qui nous disaient « Ce truc est à mi-chemin entre génial et débile. C'est très bien parce que ça permet de développer vite. » Mais pourquoi vous n'avez pas un cron? Comment est-ce qu'on fait des tâches de nettoyage, purge, copie, transfert, archivage, etc., etc. Donc ça, on l'a qui vient d'arriver là-dedans. Mmh.
Alors en français, caché. C'est le planificateur. Non, il n'est pas caché, c'est le planificateur. Voilà. Donc voilà, où là, on peut créer une tâche. Donc,
là, pour la purge.
Non, bidule.
Bidule.
Et donc on peut faire.
Un informaticien à l'ancienne.
Hein. Ouais, c'est ça. Donc on peut faire une tâche soit à la demande, soit toutes les 15 minutes,
120 minutes, 120 minutes. Très
minutes. Bien. Toutes les 15 minutes.
De toute façon, par défaut, elle n'est pas planifiée, donc elle s'exécutera pas.
Donc on va faire toutes les 15 minutes. Donc ça crée ma tâche bidule.
Je vais. Ah, c'est 15 minutes, hein.
Ouais.
Tu l'as demandé.
Oui, c'est ça. Et dans 15 minutes, j'aurai une nouvelle tâche. Donc voilà. Donc là, j'ai effectivement cette tâche-là dans laquelle je peux entrer. Donc je peux faire le script.
Voilà. Grosse surprise, c'est à nouveau du JavaScript.
Voilà.
Puisque c'est à nouveau le framework d'exécution Node.js qui prend ça en charge.
Voilà. Et donc là, je vais pouvoir faire un console.warn. Ce n'est plus vide, par exemple.
Très bien, merci pour la production.
Enregistré. Voilà, et puis après, je vais pouvoir.
Bah, tu peux la lancer à la main directement là.
Oui.
Sinon, on peut aller dire voilà. Ça y est, je vais l'activer pour qu'elle tourne toutes les 15 minutes,
voilà,
etc.
La configurer ici en disant voilà, blabla.
Mais pendant le debug, vous cliquez une fois et puis vous allez voir les logs. Quoi.
Voilà, et donc, ou sinon, exécuter une fois. Voilà, et donc, normalement, je dois pouvoir aller voir dans les logs. Et avoir deux données de log, le fait que voilà. A ajouté Toto et que ce n'est plus vide. Avec des logos différents et tout, c'est très bien. Donc effectivement, nouvelle, une des dernières fonctionnalités qui a été ajoutée avec les push notifications d'iOS, oui. À ma connaissance.
Oui. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de ces push notifications d'iOS?
On peut en parler, on peut regarder comment ça se fait sur. Alors j'ai une application là.
T'as la version Windows d'abord.
J'ai une application Windows et puis après on fera. Ouais. Ouais. Donc j'ai une application ici, donc c'est à peu près la même. La seule chose que j'ai faite, c'est que.
J'ai mis Badgin à la place de ce tuto.
Oui, c'est ça. Et donc.
C'est joli, hein.
Et à part ça, j'ai. Enregistrer l'application. Ah oui, alors ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, pardon, c'est que une fois qu'on est dans cette. Donc à gauche de tableau de bord, il y a une espèce de nuage avec un éclair pour démarrer, enfin bon, qui est la page de démarrage en fait du mobile service. Et dedans, donc c'est là où on a effectivement le fait de pouvoir connecter une application Windows Store existante aussi, etc. Et il y a les procédures d'ajout d'une authentification, procédures d'ajout des push notifications. Donc pour l'authentification, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que je vous dirais où on trouve code.google.api machin là. Eh bien, c'est ici, c'est-à-dire que dans cette page-là, en fait, il indique comment faire. Et par exemple, pour Google, il suffit d'aller ici. Enfin, il vous explique comment faire exactement. Il y a toute la procédure qui indique comment faire avec ce qu'on vient de voir. Hein. Et entre autres, le lien où aller pour le Google API qui est ici. Donc voilà. Et il y a aussi la procédure d'ajout des push notifications. Donc soit pour Windows Store, soit pour Windows Store donc en C#, soit Windows Store en JavaScript, soit Windows Phone 8, soit iOS. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les indications pour le faire sur le push notification au niveau d'une application Windows Store. Donc, grosso modo, ce que ça donne, c'est ça. Donc, et là aussi, j'ai l'authentification dans les cadres. Donc, à la limite, je sais pas ce que tu veux comme entre. Donc là, je peux choisir. Là, je l'ai mis dans le code entre Google, Facebook, Microsoft Account ou Twitter.
Où est-ce qu'on peut te mettre mal à l'aise? Facebook, en général, c'est pas mal. On voit plein de choses.
Facebook, allons-y sur Facebook. Donc, sur Facebook et allons-y.
C'est le problème de ces démos, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Donc,
du coup, Maxence est venu sans bécane.
Voilà.
Il a évité les risques.
Donc, j'ai aussi un compte Cloud Computing sur Facebook.
C'est qu'on se pratique depuis quelque temps déjà.
Et donc, je m'authentifie avec ce compte-là. Donc, je suis connecté avec ce compte à blablabla. Donc, si vous voulez devenir ami avec moi, je ne sais pas si cet identifiant est utile. Toujours est-il que si je saisis un nouveau, une nouvelle tâche ici, que je sauvegarde, en fait, ce que fait le script de l'autre côté, c'est qu'il attend 7 secondes et ensuite il envoie une push notification qu'on a ici,
juste
ici, et qui affiche donc le fait que ce soit depuis tel utilisateur, que ça a été fait, que le niveau d'authentification s'est authenticated ici. Bon. Donc si on regarde juste rapidement le code avant que je redonne la main, ça donne ça. Donc c'est dans données, puisque le code est toujours attaché au CRUD. Hein. Je ne sais pas comment ça se dit en français, CRUD.
CRUD.
Ah non, le create, read, update, delete, création, c'est... lecture, mise à jour.
Hein? Ça va être très très laid.
Ouais. Donc en fait, là, je dis en fait, quand j'exécute ma requête, je fais un request execute. Donc après, il y a la soupe de callback Node.js hein, qui fait que effectivement, ça fait. On écrit tout le code à l'envers, en gros.
Ouais, c'est pour ça qu'on a inventé les écrans larges.
Hein. Oui, c'est pour ça. Donc on dit voilà. Je passe à request.execute le fait que s'il y a un succès, enfin si ça marche, dans ce cas-là, j'appelle une fonction et cette fonction, elle fait request.respond et j'ai rajouté le fait de dire, je fais un setTimeout. Ce setTimeout prend en paramètre l'appel d'une fonction qui est sendNotification et après 7000 millisecondes. Et donc, ce qui nous intéressait sur tout ça, le fait qu'on on fasse appel à l'objet push, donc push.windowsNotificationService, et puis on envoie une notification de type toast.txt4, parce qu'il y a tout un tas de modèles de notifications qui existent dans Windows. Hein, et voilà, et donc là on dit voilà, le texte 1 c'est item.txt, le texte 2 c'est from le user, et le texte 3 c'est user.level, et c'est là où on a le authenticated.
Ok. Donc avec ça, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on
mais
est capable
de faire.
Mais c'est
écrit dans la console, tu veux qu'on regarde ce qu'on a dans la console?
On l'a déjà vu. Excuse-moi Benjamin. Mais... donc concrètement, tout ce qui est développement côté Windows, que ce soit Phone ou notre ami Windows 8, c'est le petit monde Microsoft qui est capable de le couvrir, et donc c'est pas une surprise qu'on ait fait des choses efficaces là-dedans. Maintenant, si on retourne sur la home ici d'un service mobile, on voit qu'on a la possibilité d'arriver sur des templates ici iOS. Et comme nous, on n'est pas tellement doué pour en parler, on a décidé d'inviter Maxence. Donc, voilà. Je vais d'abord demander à Maxence de nous raconter en deux mots qui il est et ce que fait la boîte dans laquelle il est. Et puis après, on ira voir un petit peu ce qu'il a fait avec Mobile Services.
Très bien. Bah, écoute, moi, je suis le cofondateur technique de la société Blockbase. Et on a créé une application iPhone qui s'appelle Bulldozer. Le but de Bulldozer, c'est d'accompagner des conducteurs de chantier. Donc on s'intéresse vraiment au marché de la construction. De les aider à faire leur remontée d'informations sur toutes les anomalies qu'ils détectent sur leur chantier. Donc on voit derrière, là, on a un petit schéma de l'architecture. Donc on a tous ces devices, hein, tous ces iPhones qui sont... en région parisienne, qui communique avec le back-end Mobile Services. Un relevé, ça ressemble à ça. Ça va être une prise de photo, du dessin sur la photo, parce qu'on s'est rendu compte que les schémas valent mieux que tous les modules, et quelques saisies d'observation et une validation.
D'accord.
Derrière ces anomalies, elles vont être remontées côté serveur grâce à Mobile Services. Et derrière, on a un dashboard qui permet de monitorer toutes ces anomalies et surveiller tous ces chantiers.
D'accord. Donc, ce n'est pas un énième quiz interactif. C'est une application sur iPhone qui sert à des vrais gens pour des vraies choses au quotidien.
Voilà.
C'est pas mal. Ok, qu'est-ce qu'Azure vient faire là-dedans?
Écoute, nous on est une start-up assez jeune, on est deux. On avait besoin très rapidement d'avoir un produit à montrer en démo, en rendez-vous. Et moi je suis développeur iOS. Et le développement back-end, c'est pas mon truc du tout à la base. Donc la solution a été de se tourner vers Mobile Services, qui a fourni à peu près tout ce dont on avait besoin, à savoir l'authentification de user, on en a parlé, la remontée d'informations, donc le stockage de nos objets. On a trouvé une technique pour stocker les images de nos anomalies, toujours sur Azure cette fois-ci, mais c'est dans Blob Storage.
Comment tu fais ça? Tu peux pas les mettre dans la base?
Non, on passe par le shared
access signature,
exactement.
Ouais, du blob storage.
Donc c'est un script à rajouter, comme on a vu, côté Azure, dans l'éditeur de code Node.js.
D'accord.
Et qui retourne ce qu'il faut pour uploader la photo au bon endroit.
Vous avez que tu étais basé sur un blog post là-dessus?
Alors, je me suis basé sur l'info, elle vient de Nick Harris, qui a posté un article là-dessus. Alors, le truc, c'est que lui, il l'a posté évidemment pour une application Windows en C#. Et on a repris la logique et on l'a adapté tout simplement pour iOS. Le plus important là-dedans se passe en fait, en réalité, côté serveur.
Parce que le dev que vous avez côté iPhone, c'est du standard iPhone?
Alors, côté iPhone, ce qu'on a fait, c'est on a fait exactement la même chose que dans la démo, sauf qu'on a cliqué sur iOS. On a cliqué en anglais, parce que c'est plus facile. et on a créé un nouveau projet. On a d'abord joué avec le nouveau projet. Alors, c'est un projet Xcode, donc c'est du dev on ne peut plus classique pour un développeur iOS. Après avoir joué un peu avec le projet modèle, on a cliqué sur projet existant. Et là, c'est très simple, il y a un zip avec un framework qui se drag and drop dans notre projet qui était déjà là depuis un moment. Derrière, on a rajouté l'URL et la clé API exactement comme on a fait tout à l'heure sur Windows dans notre code en Objective-C iOS. Et ensuite, ça s'est passé exactement comme on l'a vu tout à l'heure. On a joué avec les push notifications, on a joué avec les scripts côté serveur, et voilà.
D'accord, donc tu as en fait les trois domaines qu'on a couverts. Lesquels tu utilises réellement dans l'application de prod, entre guillemets? Tu utilises le stockage, l'authentification. Les notifications, tu t'en sers ou pas encore?
Les notifications, très peu.
D'accord.
Très peu, c'est... Pour être tout à fait honnête, on les utilise en rendez-vous pour montrer que c'est du temps réel et souvent ça fait son effet de montrer qu'on a un iPad à gauche, un iPhone à droite, on crée une anomalie à droite, elle apparaît à gauche immédiatement en temps réel, ça fait son effet.
Oui, parce que nous on dit iOS et les gens pensent iPhone, mais c'est iPhone, iPad quoi. Donc,
ouais.
Vous avez joué un tout petit peu avec Android ou pas du tout?
Pas encore. Par contre, on a vu que... on est allé regarder derrière le SDK. On est allé jeter un coup d'œil dans la doc de l'API REST Azure. Et on a vite compris que Android allait arriver, je crois. On a même trouvé quelques SDK qui traînent.
Oui, et puis il y a aussi des blog posts qui montrent comment le faire, puisque en fait, comme ce sont des API REST qui sont faites, même si c'est plus simple avec un SDK côté client, il y a aussi le moyen de le faire aujourd'hui aussi avec Android. Il y a des blog posts qui montrent ça, quoi. Mais bon, effectivement, si c'est fait directement dans Mobile Services, ce sera plus simple.
Ok, donc blogbase.com pour découvrir la société, pour découvrir Bulldozer et tous ces éléments-là. Et donc, la prochaine fois qu'on t'invite, tu nous le montreras sous un Windows Phone ou sous un Windows 8?
Ah bah écoute, ouais, on a un développeur. On a un développeur Windows 8 qui est arrivé la semaine dernière.
D'accord.
Donc je lui ai fait charger le projet Windows modèle. Mm-hmm. Et là, tout de suite, ses yeux se sont ouverts grands comme des ballons. Et je pense que assez rapidement, on va avoir une solution multiplateforme.
Ouais. Eh ben,
très bien.
Rendez-vous est pris alors. Ok, et ben voilà pour ce petit tour d'horizon. Donc côté questions, comme on a encore une fois explosé tous les timings qu'on avait imaginés au début, Alors, on est vraiment désolé. Hein. À chaque fois, on se dit on va faire 20 minutes. Là, on est à peine à 35, donc ça va. Donc, je ne sais pas sur quoi sera le prochain tuto live. Je sais juste qu'il sera après les Tech Days. Parce que maintenant, on va être un tout petit peu occupé par ça. Du coup, eh ben, nous, on sera au Tech Days. Benjamin y sera, Stéphanie y sera, Maxence
y sera.
Il vient aussi, hein. Voilà.
Toi, tu seras aussi.
Moi aussi. Donc, si vous voulez venir parler de tout ça au Tech Days, eh ben, attrapez-nous, on sera facile à trouver.
Ouais.
Voilà, à dans un mois et quelques pour la suite.